Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la Wikiradio du CNRS où nous allons parler des thérapies et des médicaments de demain. Alors ces thérapies et médicaments de demain sont le fruit, on va le voir, d'un long parcours, celui de la recherche, puis de tests suivant plusieurs phases et enfin, lorsqu'on y arrive, de mise sur le marché, ce qui prend souvent beaucoup d'années et demande beaucoup d'argent. Alors nous allons nous projeter dans cet avenir autour de quelques innovations applicables à de nombreuses pathologies comme les maladies infectieuses, les maladies neurodégénératives et le cancer. Alors nous sommes en compagnie de David DeVos qui est professeur de pharmacologie médicale au CHU de Lille et chercheur à l'INSERM dans le développement de nouvelles thérapies et notamment le traitement neuroprotecteur contre les maladies neurodégénératives. En compagnie également de Patrick Couvreur, qui est professeur à l'Université Paris-Sud, à l'Institut Gallien, et qui nous parlera des nanotechnologies. Nassim Betrouni, chercheur à l'INSERM, et qui évoquera la thérapie photodynamique. Olivier Adotevi, qui est professeur de médecine en charge d'une équipe de l'INSERM sur l'immunologie. Et enfin, Robert Sebag, vice-président de Sanofi Aventis et responsable de l'accès aux médicaments. Alors commençons avec vous, David DeVos. Vous avez dirigé plus de 20 études académiques et reçu plusieurs prix pour la meilleure innovation thérapeutique et récemment obtenu un financement européen, ce qui est assez rare, je crois.
Oui, tout à fait.
De 6 millions d'euros. C'est pour mener un large essai thérapeutique du traitement de la maladie de Parkinson par chélateur de fer. Alors vous allez nous expliquer d'une manière claire ce que cela signifie.
Tout à fait. On voulait se lancer dans un large problème. Vous savez qu'il y a des millions de personnes qui souffrent de maladies du cerveau, parmi lesquelles il y a ces fameuses maladies neurodégénératives. Alors c'est un mot un peu long et complexe qui veut dire que finalement les neurones meurent un peu trop vite et un peu trop. Et parmi lesquels on retrouve la maladie de Parkinson, qui est la seconde maladie par sa fréquence, après la maladie d'Alzheimer et devant la maladie de Charcot, la fameuse sclérose latérale amyotrophique. Alors on s'attend, on est déjà face à un tsunami, mais on s'attend encore que ce tsunami augmente, ne serait-ce que par l'augmentation de la population, l'espérance de vie, même si celle-ci semble stagner un petit peu. Et donc ce problème est majeur parce qu'on n'a quasiment toujours pas de réels traitements neuroprotecteurs susceptibles de limiter cette progression totale du handicap moteur. Alors, à l'exemple de la maladie de Parkinson, c'est une lenteur, une raideur, des tremblements, mais aussi non moteurs, où l'on a de l'anxiété, de la dépression, de l'apathie, des troubles intellectuels allant jusqu'à la démence. Alors ce problème donc conduit le patient jusqu'à l'institutionnalisation, à des retentissements majeurs pour l'entourage. Et dans la maladie de Parkinson, depuis la description par James Parkinson en 1817, finalement reprise ensuite par Charcot, on sait que un peu plus tard, au début du XXe siècle, que parmi les symptômes, beaucoup sont liés à la dégénérescence d'une zone qui s'appelle la substance noire en haut du tronc cérébral, et que cela conduit à un déficit de dopamine, et c'est la base de tous les traitements qui améliorent les symptômes de la maladie de Parkinson. Mais l'on sait aussi depuis très longtemps, puisque l'ermite en 1924 l'avait déjà décrit, on a un excès de fer. Beaucoup de chercheurs ont démontré finalement que ce n'était pas un innocent sur les lieux du crime, mais qu'on avait bien une majoration de la mort neuronale à cause de cet excès de fer. Et il faut expliquer alors pourquoi cette zone est riche en fer et s'enrichit en fer. Eh bien, en fait, le fer est extrêmement important. D'abord, il a permis la vie sur Terre, on le sait. Les cyanobactéries, les premières formes de vie sur Terre, ont tiré leur énergie du fer. Nos mitochondries, ces petits organites qui nous permettent de fabriquer l'énergie, qui sont des centrales nucléaires dans nos cellules, utilisent le fer qui fixe l'oxygène pour fabriquer l'énergie. Mais lorsque on a des toxiques de l'environnement, comme les pesticides pour la maladie de Parkinson, certains déficits génétiques, eh bien, la mitochondrie dysfonctionne. Et lorsqu'elle dysfonctionne, elle a ce réflexe un petit peu inapproprié d'accumuler encore un peu plus le fer pour essayer d'augmenter son niveau d'énergie. Mais un peu comme une centrale nucléaire qui dysfonctionne, eh bien, elle va accumuler les déchets toxiques et l'excès de fer va aggraver ces déchets toxiques. C'est ce qu'on appelle le fameux stress oxydant. Tout le monde a entendu parler de ce terme. Alors, beaucoup donc d'études ont été faites et ont démontré cela. Néanmoins, on restait dans la vallée de la mort un peu de développement de médicaments parce qu'en fait, personne n'osait utiliser un attrapeur de fer, un chélateur de fer, chez des patients qui n'ont pas une surcharge en fer massive dans le corps. On a donc utilisé, notre équipe est une rare équipe de translationnels réellement, c'est l'équipe INSERM 1171 de l'Université de Lille, dirigée par Régis Bordet, en lien avec donc, des scientifiques, mais aussi des cliniciens, dans le service du professeur Defer avec le docteur Caroline Moreau. On a mis en place une étude où on allait directement en même temps de la culture neuronale, les modèles de Murin et les patients en même temps. On a mené une étude qui a montré que lorsqu'on utilisait la déferriprone, qui est un traitement qui était indiqué dans les surcharges en fer des enfants qui avaient recevaient beaucoup de transfusions pour des maladies du sang, lorsqu'on mettait une dose plus faible, eh bien ce médicament était finalement un sidérophore, c'est-à-dire qu'il allait attraper le fer à certains endroits, mais le relarguer, le redonner aux protéines de transport habituelles que sont par exemple la peau-transférine. Donc finalement, il devenait intelligent, il ne retirait pas de manière drastique le fer, ce qui aurait des conséquences dramatiques, évidemment, d'anémie, de manque d'énergie, etc. Et donc, on a pu prouver cela. Et là, maintenant, eh bien, comme vous l'avez stipulé, on a réussi à obtenir un financement européen pour mener une large étude académique. Et on doit souligner aussi, ce qui est important, c'est d'avoir des partenariats, donc je le disais, entre scientifiques et cliniciens, des vraies études translationnelles. Beaucoup de gens qui disent qu'ils font de la translation, mais n'en font pas. Pour sortir de cette vallée de la mort, il faut aussi de vrais partenaires industriels. Et on a pu travailler avec un laboratoire...
Alors, pour bien préciser, la vallée de la mort, c'est ce moment délicat entre le stade d'études et de tests d'un médicament et sa mise sur le marché. C'est là qu'il y a besoin de cette main tendue de l'autre côté pour sa mise sur le marché.
Oui, de manière très générale, mais en fait, plus particulièrement, c'est un peu entre finalement les modèles animaux. On promet que ça va guérir les humains, les patients dans quelques années, mais en fait, il faut passer ensuite sur des phases très préliminaires, les phases 1, donc on a entendu parler beaucoup ces derniers temps avec Rennes, et des phases 2, et surtout ensuite partir sur des grandes phases 3 qui coûtent beaucoup d'argent, qui sont très risquées. Et donc il faut augmenter les partenariats entre tous les acteurs de cette recherche pour sortir de cette vallée de la mort.
Donc juste pour bien comprendre votre innovation, elle n'arrête pas. Elle ne stoppe pas la maladie de Parkinson, mais elle ne fait qu'arrêter sa progression.
Alors en fait, bon, il va falloir qu'on vérifie tout ça plus largement. Et cette étude européenne sur 338 patients dans 24 centres sur 8 pays devrait nous apporter beaucoup d'explications. Surtout qu'on va aussi faire de nombreux examens chez ces patients pour comprendre un peu mieux le phénomène. Mais il semblerait qu'effectivement on ralentisse la pente d'aggravation. Et donc on peut imaginer qu'au lieu d'avoir des troubles de la marche très sévères après 10 ans, ceux-ci ne surviennent que 15 ans plus tard. C'est un peu l'enjeu pour l'instant de ces maladies neurodégénératives. Évidemment, stopper complètement une maladie nécessiterait de toucher le cœur du phénomène, réparer une anomalie génétique, ou mieux encore, éviter avec la COP21 d'utiliser encore des pesticides extrêmement dangereux dans la population générale.
On va rester dans le domaine des maladies neurodégénératives, mais pas que. Voilà, pas que. Avec vous, Patrick Couvreur, vous avez été titulaire de la chaire d'innovation technologique du Collège de France, je le rappelle, et vous êtes membre de l'Académie des sciences. Alors là, c'est l'utilisation des nanotechnologies et effectivement aussi pour le cancer.
Oui, alors vous savez que lorsqu'on administre un médicament à un organisme vivant, eh bien, il va se distribuer, je dirais, au niveau des différents tissus, des différents organes, des différentes cellules, en général d'une manière spécifique. C'est-à-dire qu'on a très difficile à contrôler, je dirais, la vectorisation du médicament vers le tissu ou la cellule-ci.
C'est-à-dire son cheminement.
Son cheminement. Alors, l'exemple type, c'est le domaine du cancer et des médicaments anticancéreux qui, vous le savez, ont des toxicités extrêmement importantes parce que la plupart de ces molécules sont quand même extrêmement actives à faible dose. Mais le problème, c'est que vous inondez également... je dirais les tissus qui ne sont pas concernés par l'activité thérapeutique. Et donc, vous voyez apparaître des effets indésirables, des effets toxiques, ce qui limite évidemment l'efficacité du traitement parce qu'on est limité dans les doses. Alors, l'idée de la nanomédecine, c'est en fait de se dire ben, on peut développer des nano-objets, des nanotechnologies qui vont avoir une taille entre quelques dizaines et quelques centaines de nanomètres, Tout petit, pour vous donner un ordre de grandeur, un globule rouge, ça fait 7 microns. Une nanoparticule peut faire 0,1 micron. Donc, on est dans un domaine à peu près 70 fois plus petit qu'un globule rouge. Donc, vous voyez, pour donner une idée de l'ordre de grandeur. Et l'idée, c'est qu'on va essayer, on va encapsuler le médicament dans ces nanotechnologies. On doit évidemment faire de la chimie, c'est très important, pour avoir des matériaux qui soient biodégradables, biocompatibles, pour vectoriser ce médicament. Et on va modifier complètement la distribution du médicament. Par exemple, dans le domaine du cancer, en ciblant le principe actif au niveau de la tumeur et en évitant la toxicité, par conséquent, au niveau des organes qui sont non concernés par l'activité thérapeutique. Alors, je peux vous donner un exemple, puisque, issu de mon laboratoire, il y a un médicament maintenant, candidat médicament, qui est en phase 3 et qui vient d'avoir d'ailleurs ce qu'on appelle le fast track de la FDA.
Alors, on va bien expliquer... ce que signifie le fast track.
Le fast track, ça veut dire, vous savez, qu'il faut remplir toute une série de règles, je ne dis pas uniquement administratives, mais qui sont quand même relativement lourdes avant d'avoir le médicament sur le marché, d'arriver sur le marché. Et le fast track de la FDA, c'est quand vous pouvez aller plus vite parce qu'effectivement, il n'y a pas de traitement efficace sur cette pathologie-là. Alors, la pathologie qui nous a intéressés, c'est donc l'hépatocarcinome, qui est donc le cancer primitif du foie. Et comme vous le savez probablement, il n'y a pas vraiment actuellement de médicaments efficaces contre cette pathologie qui présente ce que l'on appelle une résistance à la plupart des anticancéreux. Tout simplement parce que les cellules hépatiques cancéreuses ont une espèce de pompe d'efflux qui est en fait une glycoprotéine qui va effluer la drogue, le médicament, de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur de la cellule, donc un mécanisme de détoxification. Et l'idée qu'on a eue, ça a été finalement d'encapsuler un médicament anticancéreux qui est très connu, qui est très vieux, qui est la doxorubicine, et de rendre donc cette doxorubicine invisible par ces protéines d'efflux des cellules tumorales. Et donc de faire un petit peu, si vous voulez, comme un cheval de Troie, c'est-à-dire la particule rentre dans les cellules tumorales, libère son médicament, et là il est trop tard, la cellule ne peut pas réagir et elle va mourir. Et l'avantage, c'est que ce nanomédicament, le nom de la spécialité, c'est le Livatag. Il est fait à partir d'un polymère biodégradable, qu'on appelle un polyalkyl cyanoacrylate, qui est biocompatible. Et lorsqu'on administre ces nanoparticules chargées en doxorubicine, elles vont aller immédiatement au niveau du tissu hépatique. On ne va peut-être pas rentrer dans les raisons pour lesquelles on va dans le tissu hépatique, mais sachez qu'en quelques secondes, ces nanoparticules vont aller dans le tissu hépatique, vont être captées par des macrophages du foie qu'on appelle les cellules de Kupffer, vont libérer leur contenu médicamenteux et donc vont pouvoir traiter de manière très sélective l'hépatocarcinome. Et, dernier élément, il faut savoir que la principale toxicité de la doxorubicine, c'est une toxicité cardiaque. Et en clinique, on sait très bien que quand on dépasse une dose de l'ordre de 500 mg par mètre carré de patients, on voit apparaître des pathologies cardiaques qui nécessitent d'arrêter le traitement ou d'interrompre le traitement même si ce traitement est efficace. Et donc là, on a montré lors des essais cliniques qu'on supprimait totalement la toxicité cardiaque, puisque vous l'avez compris, grâce à ce système de vectorisation à l'aide de nanoparticules, on ne va pas du tout au niveau cardiaque, mais on va au niveau du foie, là où se trouve la tumeur.
Directement ciblé.
Voilà. Voilà.
Et donc vous avez participé à la création de start-up justement pour...
Oui, une start-up s'appelle BioAlliance. Oui.
Voilà.
Voilà, qui s'appelle BioAlliance et puis qui maintenant s'appelle Onxeo, parce que vous savez, on essaie de racheter d'autres sociétés, qui est rentrée en bourse.
Oui.
Et pour moi, c'est quand même un très grand plaisir, parce qu'il faut dire que quand on a commencé à développer ces nanovecteurs, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'écho du côté de l'industrie pharmaceutique, qui ne croyait pas qu'on puisse arriver en phase 3 avec un médicament comme ça. Et c'est pour ça qu'on a créé cette start-up qui est rentrée en bourse et qui maintenant... se débrouille pas mal.
Donc ça fait partie de l'une de ces passerelles qui permet de faire avancer cette phase critique.
Voilà.
Alors toujours pour rester sur les traitements ciblés et notamment justement sur les mêmes types de pathologies, Nassim Betrouni, vous êtes chercheur donc à l'INSERM et cette fois c'est une autre manière d'accéder directement à la tumeur sans effet secondaire avec la thérapie photodynamique.
Tout à fait.
C'est le laser et je vous laisse nous présenter le reste du dispositif.
Tout à fait. Nous, on est sur une technique qui s'appelle la thérapie photodynamique. Donc, comme son nom l'indique, c'est activer un produit, pas de la lumière. Donc juste pour l'anecdote, ça peut paraître comme une technique récente. En fait, elle est très ancienne. Il paraît que ça a été trouvé dans certains écrits égyptiens, que les anciens égyptiens justement connaissaient les effets de certaines plantes en fait, qu'ils mettaient sur la peau. Ils restaient au bord du Nil, ils absorbaient la lumière du soleil. Ils avaient remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait sur la peau, justement ça traitait certaines lésions. Donc c'est une technique qui est ancienne, qui est revenue un peu à la mode, qui revient à la mode parce que la technologie se développe. Comme deuxième anecdote, le premier traitement qui a été fait en thérapie photodynamique, ça a été fait avec la lumière d'un vidéoprojecteur, qu'on utilise pour les vidéoprojecteurs. Et là, ces dernières années, ça revient un peu à la mode parce que la technologie se développe, donc à travers les lasers, donc les diodes électrolumineuses. Donc on a les lasers qui sont disponibles maintenant, qui sont moins chers, qui sont miniatures. Donc on peut l'appliquer d'une manière très efficace et très simple. Donc le principe de base, c'est d'injecter un produit ou de l'administrer d'une manière topique. Ce produit est inoffensif tant qu'il n'est pas activé par la lumière à la bonne longueur d'onde. Et la bonne longueur d'onde, elle est ramenée par le laser, justement. Le laser qui va ramener la longueur d'onde qui va activer ce produit. Et là, il y a une succession de phénomènes chimiques, justement, qui vont rendre la molécule toxique. Et comme cette molécule, il y a différentes molécules, en fait. Il y a des molécules qui sont spécifiques, qui vont s'accumuler d'une manière préférentielle sur la tumeur. Il y a d'autres molécules qui ne sont pas spécifiques. Et là, la spécificité, on la ramène avec la lumière. Donc, dans le premier cas, quand la molécule spécifique, elle s'accumule d'une manière spécifique dans la tumeur. Donc, on rapporte la lumière sans trop faire attention justement à ça. Donc, et l'activation se fait là où se trouve la tumeur. Si la molécule, par contre, n'est pas spécifique, c'est le cas, par exemple, nous, on vient de finir une étude, justement, on a eu la chance d'avoir une collaboration avec un groupe pharmaceutique qui a produit une molécule, justement. Par contre, cette molécule n'est pas spécifique. Donc, elle est injectée, c'est pour le cancer de la prostate. Elle s'accumule partout. Donc, l'activation se fait, la spécificité, on la ramène par la lumière. Donc, là, on met la lumière directement dans la prostate. Et là, on a un effet ciblé uniquement dans la prostate, on ne l'a pas ailleurs. Voilà, donc c'est un peu le principe général de la thérapie photodynamique. Peut-être la question que vous allez me poser ou que tout le monde se pose, si c'est si génial que ça, pourquoi c'est pas très développé? Voilà, je vais vous le dire. Parce que pour nous, en fait, pour la thérapie photodynamique, la vallée de la mort, elle est encore plus grande. Pourquoi? Parce que si, je vais prendre un exemple. C'est quand, par exemple, vous voulez mettre sur le marché une molécule, mais pour mettre sur le marché une molécule, vous devez... En fait, vous occupez de l'aspect réglementaire de la seringue, du pousse-seringue, du lit, etc. C'est à peu près la même chose. Parce que dans la thérapie photodynamique, on a la molécule, qui a donc le statut d'un médicament, et on a autour de ça la technologie qui va l'activer. Donc le laser, éventuellement des fibres optiques, éventuellement des logiciels. Et tout ça, c'est des dispositifs médicaux. On parle beaucoup de dispositifs médicaux. Et tous ces dispositifs médicaux-là ont leur propre parcours réglementaire. Donc pour mettre sur le marché une technique de thérapie photodynamique, donc il faut suivre le parcours classique d'un médicament pour obtenir l'AMM, mais aussi il faut s'occuper...
L'AMM, on précise...
L'autorisation de mise sur le marché. Mais aussi il faut s'occuper du dispositif, des différents dispositifs qu'on appelle dispositifs médicaux, les DM. Donc voilà, il faut s'occuper de tout ça, donc entre autres le laser, les fibres optiques ou les applicateurs de lumière, pas forcément des fibres optiques, éventuellement le logiciel qui fait la dosimétrie, tous ces éléments-là ont leur propre parcours qui devient de plus en plus compliqué, donc de plus en plus cher à mettre en place.
Voilà, et le temps qui passe aussi,
tout à fait.
Qui nous donne, qui se compte en années pour arriver à déboucher sur quelque chose de plus concret.
Tout à fait, ouais. Pour la prostate par exemple, donc on a été contacté par le groupe pharmaceutique qui utilise une molécule, ça a été fait en 2009, on a eu un contrat avec eux en 2009, ils étaient en phase 2, donc on leur a développé des outils pour standardiser la technique, on a fini la phase 3 en 2015. Et là, on attend le retour.
David DeVos. Ouais,
donc, il n'y a pas de lumière dans la vallée de la mort. C'est juste pour...
Tout à fait.
Oui, Olivier Adotévi.
Par rapport au ciblage de M. Cooper,
votre technologie s'adresse directement au tissu concerné. Alors, par rapport à M. Cooper, vous n'avez pas de... En plus de la des nanoparticules, un guide qui va directement dans le foie, c'est juste par la vascularisation ou Parce que si on, je sais très bien que bon, quand on injecte un produit pas avoir sanguine, ça va directement dans le foie, les ces organes-là.
Tout à fait. Oui.
Et quand on sort, quand on quitte l'hépatocarcinome, est-ce que vous imaginez que ces nanotechnologies peuvent guider des traitements vers d'autres tissus autres que le foie?
Oui, alors absolument, parce que là, le temps nous était compté, donc j'ai parlé d'une technologie qu'on a développée. Alors il faut savoir que si on va dans le foie, c'est simplement parce qu'on a ce qu'on appelle un phénomène d'opsonisation, c'est-à-dire, vous le savez bien, les protéines plasmatiques vont s'absorber à la surface des particules, et ce sont ces protéines plasmatiques qui vont donner le signal aux macrophages du foie de capter. Mais maintenant, ce qu'on arrive à faire, c'est de la nanochimie de surface, c'est-à-dire qu'on va mettre des polymères hydrophiles et flexibles à la surface de ces nanoparticules pour empêcher ce phénomène d'opsonisation. Et à ce moment-là, vous avez des particules qui vont tourner beaucoup plus longtemps dans la circulation générale. Okay. Et vous le savez dans les tumeurs, mais c'est vrai aussi dans d'autres pathologies infectieuses, inflammatoires. Vous avez un endothélium vasculaire, c'est-à-dire, je le dis pour les auditeurs,
oui, on
la,
va
paroi des vaisseaux, hein. La paroi des vaisseaux qui est perméable. Et donc, si vous avez un nanovecteur qui tourne longtemps dans la circulation générale, c'est comme un tuyau d'arrosage où vous avez fait des trous au pied de la plante, et bien vous allez avoir une extravasation sélective au niveau de la tumeur. Parfait. Et donc, par rapport à la photothérapie, eh bien, on associe les deux. Et il y a, dans
alors
la littérature,
voilà,
il y a pas mal de gens, nous on ne le fait pas, mais il y a pas mal de gens qui encapsulent justement des médicaments qui sont sensibles à la lumière, dans des particules, pour les guider dans les tumeurs, et ensuite pour faire de l'illumination. Et on peut même développer maintenant des particules qui vont induire une libération de photons pour précisément agir sur la molécule qui est photosensible.
Tout à fait.
Donc c'est tout à fait complémentaire.
Tout à fait, sauf que le parcours réglementaire, il se rallonge encore davantage.
Ah voilà, oui, là, parce que ça, là, il faut aller tester effectivement les composantes. De voilà. Chacune de vos innovations. Alors Olivier Adotevi, vous êtes aussi sur la recherche contre le cancer, puisque vous avez, en termes d'immunologie, travaillé sur un vaccin universel contre le cancer.
Alors, c'est l'exemple typique aussi d'un développement qui part de la paillasse hein, dans les laboratoires jusqu'à amener le produit de cette recherche au lit du patient. Alors à Besançon, au CHU de Besançon, avec le service de cancérologie, je suis oncologue aussi en parenthèse, et en association avec l'équipe INSERM qui travaille sur l'immunothérapie des cancers. Alors le vaccin anti-cancer, c'est un terme que j'aime pas trop, mais je préfère le terme général de immunothérapie. Et je vais dire ce que c'est l'immunothérapie, c'est l'ensemble des traitements qui consistent à réactiver le système immunitaire. Système immunitaire, c'est-à-dire l'ensemble des défenses naturelles d'un individu contre son propre cancer. Alors, ce que nous avons fait, maintenant on sait depuis quelques années, depuis très longtemps, depuis le début du 19e siècle, que le système immunitaire pouvait jouer un rôle important dans le développement des cancers. Et il y a un chercheur, un médecin anglais qui s'appelle M. Colley, qui l'avait montré dans les années 1895, qui avait montré qu'il avait fait une observation tout simple, parce que la médecine c'est très important, les observations sont très très importantes, même si on a une médecine très très technologique maintenant, mais je pense que l'observation clinique est aussi très importante. Et je tiens à le souligner. Et ce monsieur, il avait vu que chez des patients à lui, dans son service, qui développaient des cancers, lorsqu'il faisait des infections graves, il y a certains patients qui guérissaient de leur... pouvaient éliminer leurs cellules tumorales. Alors, il se posait des questions, etc. Et puis il a compris qu'en fait, c'est une bactérie, une infection bactérienne concomitante qui entraînait cette régression tumorale. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir ses collègues microbiologistes. Ils lui ont trouvé la bactérie en question. Il s'est dit, chaque fois que les patients ont cette infection, il y a certains qui guérissent le cancer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé une soupe, une toxine dérivée de cette bactérie qu'on appelle la toxine de Colley. Et chez certains patients, il leur injectait. Alors, il y avait beaucoup de toxicité, mais il avait aussi quelques résultats. Donc, et puis plus tard, en 2012, on a compris comment marchait la toxine de Colley. La toxine de Colley, c'est le prix Nobel de M. Hoffman, vous savez, donc, qui a montré que, en fait, c'est le fait que le système immunitaire, cette toxine bactérienne, pouvait activer de façon non spécifique le système immunitaire. Et c'est en activant de façon non spécifique le système immunitaire la réponse du patient contre son cancer, on l'active aussi de façon indirecte. Et ça contribue à éliminer le système, le cancer. Et maintenant, on sait que chez un patient, deux patients qui ont le même cancer, l'évolution peut être complètement différente selon le fait que le capital immunitaire existant de l'un est plus important que de l'autre. Donc on sait, et aujourd'hui je peux aussi dire, si vous voulez utiliser le mot la vallée de la mort,
oui,
que l'immunothérapie en est sortie. L'immunothérapie en est sortie.
Comment ça?
Alors l'immunothérapie antitumorale, oui, en est sortie parce que les fruits du progrès scientifique ont permis de comprendre que, vous savez, les cellules tumorales se multiplient, se divisent à l'excès. Et ces cellules, normalement, sont programmées pour mourir. Et elles ne meurent pas. Et on sait que chaque fois, le système immunitaire, dans la majorité des cas, les contrôle, les élimine. Et que quand les cellules tumorales, le cancer survient, c'est qu'elle a échappé au système immunitaire. Et maintenant, il y a des traitements qu'on a trouvés, ce qu'on appelle des immunothérapies, qui consistent à bloquer un des mécanismes qu'utilise la cellule tumorale pour échapper au système immunitaire. Et on arrive à contrôler complètement, à remettre les patients en rémission. Et pour vous donner un exemple, il y a des cancers comme le mélanome, le cancer de la peau,
oui,
avancé, le cancer du poumon, qui sont des maladies graves pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de traitements efficaces à l'heure actuelle. Et l'immunothérapie, qui consiste à déverrouiller les réponses immunitaires des patients, deviennent les traitements de première intention dans ces maladies, par rapport aux traitements conventionnels que sont les chimiothérapies, les rayons, etc. Qu'est-ce que nous avons fait? Alors, il y a plusieurs façons de stimuler de réactiver le système immunitaire. Soit on bloque un mécanisme qu'utilise la cellule tumorale pour échapper au système immunitaire, ou soit on va réactiver directement le système immunitaire en vaccinant, selon on utilise le mot, en vaccinant l'individu contre un antigène exprimé dans son cancer. Alors, c'est ce que nous on a fait. On a travaillé sur un antigène qu'on appelle la télomérase. Et cette télomérase est surexprimée dans la majorité des cancers. C'est quoi la télomérase?
Oui, voilà, c'était la question.
Alors, la télomérase, c'est tout simple.
Vous poser.
Vous savez que les cellules tumorales, elles ne meurent pas. Et la protéine, l'enzyme qui leur confère l'immortalité, c'est la télomérase. Alors, vous savez que les chercheurs, les trois scientifiques qui l'ont découvert, ont eu le prix Nobel de médecine en 2009. Donc, ce qui montre vraiment son importance. Alors, ce que nous avons fait, c'est qu'on s'est dit, s'il faut trouver un vaccin contre un cancer, il faut un antigène qui est surexprimé dans la cellule tumorale, dont la cellule tumorale ne peut pas s'en débarrasser. C'est-à-dire, si une cellule tumorale se débarrasse de la télomérase, elle n'est plus une cellule tumorale. Donc, elle est tout le temps surexprimée. Et deux, il faut un antigène qui est exprimé dans plusieurs cancers. Quasiment la majorité des cancers humains expriment la télomérase. Alors, troisième chose qu'on a faite dans l'innovation, c'est on a trouvé au sein de la télomérase des déterminants qui permettent de stimuler le système immunitaire. Et n'importe pas quel type de... Vous savez, tous les types, les différents, il y a plusieurs types de réponses immunitaires et il faut faire la bonne contre le cancer. Donc, on a trouvé dans la télomérase un bout de qu'on appelle des peptides dérivés de cette télomérase qui stimule ce qu'on appelle les lymphocytes CD4 et une population de lymphocytes CD4 qu'on appelle les TH1 qui sont les bons et qui créent l'environnement favorable pour éliminer la tumeur.
Nassim Betrouni.
Oui, merci. Je souhaitais juste rebondir sur les paroles d'Olivier, justement. La thérapie photodynamique, il y a des recherches, des résultats dans la littérature. Nous, on n'a pas encore commencé, on va commencer cette année, qui montrent que, en fait, elle induit une réponse immunitaire aussi, comme en radiothérapie. Je sais qu'il y a des gens qui étudient suite à la radiothérapie. On sait que la thérapie photodynamique ou la radiothérapie ou les IFUT, en fait, toute thérapie basée sur une énergie finalement, va agir en local. Donc, dans notre cas, en thérapie photodynamique, donc c'est là où se trouve le produit, la lumière et l'oxygène, parce que le troisième pilier, c'est l'oxygène. Mais par exemple, sur le glioblastome et sur le mésothélium pleural malin, peut-être on va revenir sur ça plus tard, en fait, les premières équipes qui ont fait des études ont vu qu'il y avait une réponse immunitaire. Donc, cette stimulation externe, finalement, stimule aussi la réponse immunitaire et conduit, en fait, les réponses observées sur la progression du cancer ne sont pas forcément liées qu'à la thérapie, en fait.
Tout à fait.
Voilà,
donc en fait, Robert Sebag.
Juste pour aller dans le sens de l'immunothérapie, Il y a un traitement qui est utilisé depuis plusieurs années, qui est l'injection de BCG dans le cancer de la vessie. Un BCG qu'on connaît bien, qui est contre la tuberculose, un vaccin, mais qu'on injecte directement dans la vessie pour le cancer de la vessie.
Exactement. Donc ça, c'est
va dans le même sens.
Ah oui, qui va très bien dans le même
sens. En tout cas, ce sont trois traitements qui peuvent être compatibles les uns avec les autres.
Tout à fait, ouais.
Et vous travaillez ensemble ou chacun reste dans son champ?
Non, je pense que le
La transversalité.
Vectoriser, c'est mettre ce vaccin dans les nanoparticules est une bonne stratégie pour stimuler encore plus le système immunitaire.
Et il y a d'ailleurs des travaux qui utilisent des nanotechnologies naturelles que sont les virus pour induire l'expression de la protéine dont vous parliez et qui est la protéine qui va être très immunogène vis-à-vis
utilisée dans les vaccins qui sont des virus porteurs. Hein.
Voilà.
Le dernier vaccin contre la dengue, on prend un virus de la fièvre jaune sur lequel on greffe des antigènes des différents virus responsables de la dengue.
Ouais. Nous aussi, donc sur les nanoparticules, on collabore justement avec des collègues qui travaillent sur les nanoparticules pour mieux cibler justement. Et pareil pour l'aspect immunitaire, pas directement avec Olivier, mais on travaille à Lille, il y a un pôle aussi immunothérapie qui est très important à l'Institut Pasteur. Et on a des collaborations avec eux pour étudier, essayer de comprendre un peu les mécanismes induits après une thérapie photodynamique.
Donc ça fait plaisir à entendre, effectivement, de voir que vous n'êtes pas
cloisonné
et que les recherches des uns et des autres servent aux uns aux autres.
Alors, je voulais juste préciser que
Olivier,
actuellement, nous avons fait toutes les études, les phases précliniques de ce projet.
Mmh.
Et nous sommes actuellement en phase 1 et 2 et clinique et on le teste ce vaccin dans le cancer du poumon métastatique en première intention puisque vous savez c'est une maladie grave pour laquelle il n'y a pas beaucoup de thérapeutiques au stade avancé qui est efficace même si les nouvelles immunothérapies sont efficaces dans le cancer du poumon et ne marchent que chez 15 à 20% des patients. Donc nous sommes actuellement là et je tiens aussi à remercier toute mon équipe qui travaille avec moi au CHU de Besançon à l'INSERM, l'UMR 1098 et puis l'État, puisque par la chance le projet a été sélectionné par l'Institut National de l'INCa qui finance cet essai de clinique de phase 1-2. Voilà.
Alors Robert Sebag, cette fois... On est avec quelqu'un de l'industrie pharmaceutique. Vous êtes
mais qui est aussi spécialiste de maladies infectieuses. Donc je vais jouer avec les deux casquettes.
Exactement. Donc on va commencer par la partie de la casquette qui était évoquée sur la première partie de cette émission, c'est-à-dire cette capacité pour l'industrie pharmaceutique de favoriser un passage plus rapide à l'accès des médicaments sur le marché.
Voilà. D'abord, je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est sur la notion d'innovation. La notion d'innovation, ce n'est pas simplement une découverte spectaculaire d'une nouvelle molécule. C'est aussi améliorer ce qui existe. Et au niveau du patient, c'est une innovation. Très rapidement, deux exemples. L'hépatite C. Depuis quelque temps, on a un médicament qui guérit. C'est effectivement une révolution. Médicament qui, au bout de 3 mois, guérit complètement de l'hépatite C. Mais si je prends dans ma spécialité les premiers cas de sida, quand on a eu les trithérapies, c'était de 25 à 30 comprimés par jour. Aujourd'hui, sans vraiment nouvelle molécule, on a amélioré, on peut traiter aujourd'hui, le sida étant devenu une maladie chronique, avec 1 à 2 comprimés par jour. Pour le patient, je vous assure que c'est aussi une innovation. Alors, le grand défi de l'industrie pharmaceutique, c'est bien sûr de développer des médicaments. Donc, on est au cœur de l'innovation, bien sûr, même s'il faut améliorer ce qui existe. Bon, d'abord, cette innovation, elle ne peut pas se faire simplement... qu'avec les industriels. Je crois que de plus en plus, le partenariat avec l'extérieur, le partenariat avec le CNRS, avec l'INSERM, avec les académies, avec des structures étrangères, c'est quelque chose de fondamental, avec des start-up, aujourd'hui de plus en plus, parce que c'est vrai que quand on regarde un peu, j'y reviendrai, les médicaments de demain, c'est beaucoup de biotechnologie. On est passé un petit peu de la chimie, si vous voulez, de la chimie pure, on est passé à la biotechnologie avec des choses extrêmement sophistiquées. Mais ce que je voulais dire, si vous le permettez... C'est pourquoi on a besoin de médicaments demain. Pourquoi on a besoin de médicaments? Alors, on a beaucoup parlé de maladies neurodégénératives, on a parlé de cancer. Moi, je voudrais parler de maladies infectieuses. Maladies infectieuses parce qu'il y a des nouvelles maladies qui apparaissent tous les jours. Et j'en ai dit un mot tout à l'heure à Mme Marisol Touraine, comme j'ai gardé une activité hospitalière, mercredi matin. Ouais, dernier mercredi, il y a 3 jours, nous avons reçu dans le service de maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, où je travaille, un cas de fièvre Zika. C'était un patient originaire des Antilles. Alors la fièvre Zika, c'est un virus transmis par un moustique. Alors c'est le même moustique tigre, vous savez, celui qui transmet la dengue, chikungunya et aussi ce virus Zika. Alors pourquoi c'est important? Alors d'abord, aujourd'hui, le virus Zika, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicament. Alors il n'est pas très grave en termes de symptomatologie, mais chez la femme enceinte, et il y a une épidémie majeure aujourd'hui au Brésil, ça entraîne des microcéphalies chez les enfants. Donc là, il y a un besoin, mais très très rapide. Et pourquoi je vous ai dit, quand nous sommes parlé, le lien avec le réchauffement climatique. Le dérèglement climatique. Parlons de dérèglement climatique. Parce que, prenons cette maladie, prenons la dengue, on peut parler du paludisme également. Avec le réchauffement climatique, le vecteur, le moustique tigre, il va pouvoir vivre, à cause de ce dérèglement climatique, sous nos latitudes. Aujourd'hui en France, je ne veux pas affoler ni les auditeurs, ni les personnes présentes ici, mais aujourd'hui en France, ce moustique tigre, cet Aedes albopictus, il était présent dans 22 départements il y a 4 mois, il est présent dans plus de 30 départements français aujourd'hui. Quand vous avez, avec les mouvements de population, nos compatriotes qui viennent des Antilles, la personne venait des Antilles, qui voyage beaucoup, aujourd'hui c'est l'hiver, tant mieux, le moustique, très rapidement, il va faire au printemps ou en été. Donc si la personne, le moustique tigre présent sur notre territoire, il va piquer une personne qui a le virus, de même pour la dengue ou chikungunya, il va le transmettre à d'autres, et c'est parti. Donc là, il y a un besoin immédiat. Si on prend la dengue, aujourd'hui, c'est des milliers de personnes. Et avec, si vous voulez, des études un tout petit peu prospectives, on sait que d'ici 30 à 40 ans, la moitié de la population mondiale, je dis bien la moitié, va vivre avec un risque d'attraper la dengue. La moitié de la population mondiale. Aujourd'hui, la dengue, merci Sanofi, je vais me faire ma petite minute, mais c'est vrai qu'on a un vaccin, c'est le premier vaccin. Oui. Ça a mis 20 ans. La vallée de la mort, elle est là aussi.
Alors voilà.
Ça a mis 20 ans pour arriver à avoir un vaccin, parce que c'est un virus coquin, le virus de la dengue. D'abord, il a 4 sérotypes, 1, 2, 3, 4.
Peut-être pas la priorité.
Non, et puis on en parlait beaucoup moins.
Voilà,
si
c'est ça.
Mais on a commencé à chercher avec des partenariats extérieurs au Brésil, en Thaïlande, etc. Et là aussi, c'était les vecteurs. C'est pas les nanotechnologies, mais on a utilisé, parce qu'un virus, on peut dire que c'est très petit. Oui, oui. Et donc là aussi, on a un porteur qui est un virus. Là, on a pris le virus de la fièvre jaune qu'on a désactivé, parce qu'il n'est pas question de provoquer la fièvre jaune chez les personnes. On a désactivé ce virus et on y a greffé des antigènes des 4 sérotypes du virus de la dengue. Et aujourd'hui, on a un vaccin qui est efficace et qui, j'espère, va pouvoir être diffusé. Le paludisme. Laissez-moi parler du paludisme. Parce que là aussi, il y a un lien avec le réchauffement climatique. Parce que des pays, je vais prendre les hauts plateaux d'Amérique latine. Vous prenez des pays comme la Bolivie, l'Équateur, le Pérou, où une partie de la population vit au-dessus de 2500 mètres d'altitude sur les hauts plateaux. Jusqu'à maintenant, du fait de l'altitude, de la température, il n'y avait pas de paludisme. Ils étaient exempts de paludisme. Pareil sur des populations autour du Kilimandjaro en Afrique. Avec le réchauffement climatique, l'anophèle va pouvoir vivre à ces altitudes-là, et des gens qui n'avaient aucune préparation immunitaire vont avoir le paludisme. Mais le paludisme, pourquoi on a besoin de médicaments? Parce qu'il est coquin aussi, le parasite. Ce parasite du paludisme, il a une capacité de résistance à toutes les entités chimiques connues. C'est-à-dire que ça marche pendant quelques temps. On avait la chloroquine, la nivaquine à l'époque, ça marchait très bien, on en a eu d'autres. Aujourd'hui, on a des dérivés de l'artémisinine, qui est une plante chinoise, mais on commence à avoir des baisses d'efficacité à la frontière de Thaïlande et du Myanmar, de Birmanie. Et ça veut dire qu'il nous faut absolument demain, il y aura des résistances, on le sait. Donc il y a une course-poursuite, c'est ça l'innovation, entre la capacité du parasite à résister à toutes les entités chimiques et les nouvelles entités chimiques. Et donc il faut une recherche, il faut des médicaments. Le sida, il faudra un vaccin. On a des besoins.
Le paludisme,
Alors, le paludisme, un vaccin. Alors, le paludisme, moi, j'étais étudiant en médecine. On me disait, dans 5 ans, vous aurez le vaccin contre le paludisme. On n'en a pas. On a aujourd'hui un vaccin qui est dans une protection de 32%. Ouais. Mais 32%, malheureusement, ça ne peut pas être un outil santé publique. C'est une avancée. On sait qu'on peut avoir une protection contre cette maladie. C'est pour ça qu'il faut continuer la recherche. C'est extrêmement important. La tuberculose. La tuberculose, quand j'étais étudiant en médecine, on m'a dit, vous inquiétez pas, le BCG, on a la rifampicine, c'est fini. La tuberculose, 9 millions de nouveaux cas par an, des formes de résistance, 1,5 million de morts par an liés à la tuberculose. Mais le problème, il est aussi avec les migrants. Pourquoi je vous ai parlé du changement climatique? Vous allez avoir une migration climatique, il y a des migrations politiques, il y a des migrations économiques, il y a des migrations climatiques. Et on sait que les gens passent de ce qu'on appelle la tuberculose latente à la tuberculose active, et les migrants, ce sont les premières victimes. Et aujourd'hui, on a 10% des cas de tuberculose qui sont résistants à ce qui existe. Donc il faut une recherche, il faut continuer. Sanofi, on a maintenu une recherche sur la tuberculose. C'est pas facile.
Et est-ce que vous travaillez justement avec aussi le secteur de la recherche publique sur...
Bien sûr, bien sûr. ils sont incontournables. Pardon, je ne dis pas ça parce que vous êtes là. Bon, alors après, vous avez des partenariats qui peuvent être importants, qui peuvent déboucher, si vous voulez, qui peuvent déboucher demain sur des médicaments, qui peuvent ne pas déboucher, mais c'est extrêmement important. On peut plus. Une recherche uniquement interne, dans une grande entreprise, quelle qu'elle soit, c'est plus possible. Il y a une telle complexité des phénomènes, de telles études à mener, que vous devez le faire avec des partenariats extérieurs. Donc ça me paraît fondamental.
Et ces partenariats qui sont y compris au niveau international, au niveau mondial.
Il
n'y
a pas de frontières.
Il n'y a plus de frontières maintenant.
Obligatoirement.
Oui. Et dans le secteur justement des maladies neurodégénératives, il y a quelque chose qui, puisque c'est un fonds européen qui vous a...
Oui, tout à fait. En fait, le financement a été donné non seulement parce que c'était la maladie de Parkinson, mais parce qu'en fait, c'est un phénomène qu'on retrouve dans toutes les maladies neurodégénératives, et même plus largement, on a quelques idées pour le diabète. En fait, comme le fer est tellement essentiel dans la survie, en fait, dès qu'il y a même une inflammation, une maladie infectieuse, en fait, on a un dérèglement de ce métabolisme du fer. Et donc, on a vu, par exemple, récemment, que dans l'insulinorésistance qui caractérise le diabète, on a aussi un métabolisme du fer qui est perturbé. Donc, en fait, c'est pour ça que ce concept était intéressant de la chélation conservatrice du fer. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il se passe quelque chose d'anormal dans le corps, le fer va se déplacer et va se mal distribuer. Et donc, il faudra le redistribuer pour que les cellules puissent avoir suffisamment de fer pour survivre et ne pas non plus s'intoxiquer par d'autres. C'est pour ça qu'on a commencé, par exemple, à utiliser ce médicament-là aussi dans la maladie de Charcot. Vous savez, cette terrible maladie où les gens risquent de mourir en 2-3 ans. Donc, on a des premières données qui montrent que lorsque le handicap est très faible, donc on est très précoce, on a l'impression qu'on arrive à prolonger la survie de ces patients. Alors, vous parliez des collaborations, donc bien sûr industrielles, avec d'autres collègues. Le fait d'avoir pu publier ces premiers résultats, eh bien, un très grand institut, c'est une neurosciences de Florey à Melbourne, qui sont dans le top 5 des plus gros neuroscientifiques du monde, nous ont contactés et on développe maintenant cette même stratégie dans la maladie d'Alzheimer. Voilà, ce qui illustre un petit peu ces différents aspects.
Olivier Dottévi.
Oui, comme on parle de surcharge en fer, il y a une maladie qu'on connaît bien, caractérisée par la surcharge en fer, qu'on appelle l'hémochromatose. Est-ce que vous avez trouvé une association entre l'hémochromatose et le Parkinson?
Oui, c'est une excellente question. En fait, ça a été démontré effectivement dans le Parkinson, l'Alzheimer et la SLA, qu'en fait, certains patients qui avaient des polymorphismes à risque d'hémochromatose étaient un petit peu plus fréquents, cette population-là. Mais c'est un phénomène général. C'est-à-dire qu'on l'a bien compris, c'est pas l'explication de la maladie, mais c'est un phénomène d'aggravation. Alors, si vous voulez aller plus loin dans aussi des aspects, on va dire, écologiques quotidiens ou nutritionnels, en fait, on a montré aussi que c'était surtout le phénomène d'exportation du fer qui était perturbé. Il utilise la lactoférine qu'on retrouve dans le lait. Mmh. Et lorsqu'on donne en fait à nos enfants du lait enrichi en fer dès l'enfance, eh bien, on s'est rendu compte par des modèles de souris qu'en fait, ça aggravait les maladies neurodégénératives de demain. D'accord. Donc, de se surcharger en lait, en fer, en viande, si on n'a pas de maladie, c'est très bien pour les aspects infectieux, parce que la lactoférine bloque l'exportation du fer, et du coup, la bactérie ne peut pas survivre sans fer. Mais dans les aspects de maladies neurodégénératives, on aggrave l'Alzheimer de demain.
Voilà. Puisqu'on parle du fer, là, c'est pour vous faire sourire un petit peu, vous avez le lien entre les parasites et la pathologie. Vous parlez d'hémochromatose. Un des traitements de l'hémochromatose, donc cette surcharge en fer, c'était de greffer, de faire avaler un parasite qui s'appelle l'ankylostome, le Necator americanus, qu'on met au niveau de l'intestin et qui absorbe du sang et du fer à la fois. Et donc, ça permet de libérer l'organisme de fer.
Nous sommes tous connectés directement.
Oui, c'est ça. Voilà. Vous me disiez, lorsqu'on préparait cette émission, que toutes ces maladies neurodégénératives, comme Parkinson, sont des maladies de pays riches.
Oui, j'aime pas quand on dit, vous avez poussé le cri tout à l'heure en disant il faut les observations cliniques, il faut pas non plus toujours dire la même phrase, on sait pas d'où ça vient. Parce que ça, c'est un petit peu trop facile de dire on sait pas d'où vient le cancer, on sait pas d'où viennent les maladies neurodégénératives. C'est-à-dire que pour un individu donné, effectivement, il y a plusieurs paramètres, et c'est une équation complexe à plusieurs inconnus. Donc on peut pas dire pour tel individu quelles sont l'ensemble des variables X qui ont conduit à la maladie. Mais on en connaît que déjà beaucoup, dans beaucoup de maladies. Et par exemple, il faut pas oublier que la maladie de Parkinson, c'est quand même une maladie du pesticide. C'est en réalité enfin reconnue maladie professionnelle très récemment, alors que c'est une image d'épinal. On voit le vieil homme au bord de route, tout voûté, qui tremble et qui marche lentement. C'est comme si c'était l'image de la vieillesse dans les campagnes. C'est quand même pas normal. Et c'est effectivement lié aux pesticides, aux métaux lourds. On a découvert une quinzaine de gènes maintenant qui sont liés. On commence à comprendre. Et donc, c'est effectivement lorsque... Alors, il y a deux phénomènes. L'augmentation de l'espérance de vie a fait que ces maladies... Alors, il y a plusieurs visages. On les retrouve chez des sujets très jeunes. Hein. On peut avoir un Parkinson à 28 ans. Mais c'est vrai que c'est plutôt, plus on vieillit, plus l'augmentation de la prévalence est importante. Et c'est vrai qu'après, au-dessus de 65 ans, à un moment de la retraite, hein, finalement, eh bien, on a 1 à 2% de la population qui a maladie de Parkinson. Ça atteint presque 8% dans l'Alzheimer. Donc, en fait, finalement, ces maladies sont liées avec ce vieillissement. Et donc, finalement, ces recherches doivent être poursuivies pour effectivement essayer de limiter un petit peu ce fléau.
Vous savez, madame, comme pour beaucoup de maladies, c'est une rencontre entre l'inné et l'acquis. Donc vous avez une partie qui est effectivement liée à l'individu, à sa propre génétique, puis le reste c'est l'environnement, l'amiante, on sait, l'asbestose, les cancers de la plèvre, et on peut citer beaucoup de cancers côté-là comme la maladie de Parkinson,
la maladie neurodégénérative, peut-être le cancer du pancréas,
qui est
même une épidémie,
énormément,
qui est une épidémie.
Et on a beaucoup de patients qui ont les deux, qui ont une maladie neurodégénérative et qui développent un cancer. On montre bien l'aspect toxique environnemental.
Ouais. C'est vrai que le cancer du pancréas et l'estisance augmente énormément. Depuis ces 10 dernières années, c'est le cancer qui progresse énormément par rapport
au. Et c'est terrible parce que moi, je me rappelle quand j'étais sur les bancs de la fac, notre prof de pathologie nous disait, j'ai fait mes études en Belgique, le cancer du pancréas, c'est un cancer familial. 99,9% des cancers du pancréas sont dans 0,0001% des familles belges. Alors que maintenant...
Non, mais c'est pas vrai.
Et c'est un des plus dangereux.
Oui, c'est ça.
Et pour lesquels on n'a pas encore d'armes thérapeutiques efficaces. Hein. Oui.
Et donc c'est cette évolution aussi des modes de vie qu'il faut que vous accompagniez avec la recherche, puisque des champs de recherche d'hier se deviennent obsolètes par rapport...
Tout à fait. Alors pour les auditeurs, on peut aussi, pour refaire un lien entre maladie neurodégénérative, cancer et tous les aspects infectieux, c'est vrai que... On a parlé de la vectorisation avec les virus. C'est vrai qu'il y a une ouverture très grande. On connaît tous l'émission Téléthon. On sait qu'il y a des maladies génétiques infantiles. Je suis en consultation des patients qui ont des maladies du handicap, des ataxies, et ils attendent avec la mutation génétique une guérison. Et là, on pourrait peut-être éventuellement, dans des familles où on détecte très tôt, même avant que le symptôme apparaît, avec justement la thérapie génique sur des vecteurs viraux, là ça commence déjà dans les myopathies, et pourront être développés très largement.
Oui, donc il faut à chaque fois remettre en question aussi les zones de recherche. Je voudrais voir vos réactions, messieurs, sur ce qui s'est passé à Rennes, là, qui est cette problématique de test de médicaments.
Il est peut-être trop tôt, je pense qu'il est vraiment trop tôt, pour tirer une conclusion, parce qu'il faut faire une analyse approfondie de ce qui s'est passé. Bon, d'après ce qu'on entend dire, c'est qu'il y avait plusieurs objectifs qui étaient suivis en même temps dans l'essai clinique. Un essai clinique, en principe, on suit un objectif thérapeutique précis, bien identifié, mais en fait, tout ça est à voir. Simplement, ce qu'on peut tirer comme information là-dessus, c'est que, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Donc, il ne faut pas se dire, attention, il faut arrêter les essais cliniques de phase 1. C'est extrêmement rare. Et je dirais que, d'une certaine manière, ça justifie l'utilisation des animaux en recherche préclinique. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a quand même tout un débat qui semble dire, une campagne qui semble dire, écoutez, il suffit de faire de la culture cellulaire, et puis on passera directement à l'homme, et à dire, évitons toute cette recherche sur l'animal. L'animal, c'est quand même un organisme vivant, complexe, pas aussi complexe que l'homme, certes, mais complexe quand même, avec ses problèmes de biodisponibilité, de métabolisation, etc., etc. Et donc, il ne faut pas oublier cette partie-là, parce qu'elle est indispensable justement pour éviter des accidents qui peuvent survenir en phase 1 ou même éventuellement en phase 2. Mais je crois qu'il est absolument trop tôt à l'heure actuelle pour pouvoir montrer du doigt tel ou tel...
C'est très compliqué, c'est très difficile de parler.
Robert Sebag.
Tu as expliqué aux auditeurs comment on développe un médicament. Comme l'a dit M. Couvreur, vous avez une phase qui est une phase préclinique, c'est-à-dire que c'est chez l'animal. Alors, vous avez différents types d'animaux, ça peut être des chiens, ça peut être des rongeurs. En l'occurrence, sur ce produit à Rennes, il y a même eu des singes qui se rapprochent le plus, si vous voulez. C'est même un petit peu curieux. Et une fois qu'on a montré, si vous voulez, les limites et la non-toxicité, la non-tératogénicité du médicament, on va passer chez l'homme. Et c'est cette fameuse phase 1. mais ce sont des volontaires sains. C'est-à-dire, on ne teste pas, on ne sur teste pas l'efficacité.
Patients, oui.
Oui, c'est des volontaires, souvent des étudiants en médecine. Il y a une partie de mes études en étant volontaire sain sur des études. Bon. Et si vous voulez, on va monter en régime un certain nombre de doses pour voir à quel niveau de dose on va avoir des effets secondaires. Et quand on a passé cette phase 1, on sait exactement comment on peut l'utiliser, on va passer à la phase 2 où là, on va le comparer avec des médicaments existants qui va montrer son efficacité sur la cible désirée. Puis la phase 3, alors là, c'est à plus large échelle. On va faire des études comparatives avec le placebo des produits. Et puis même, il peut y avoir une phase 4 après la commercialisation à large échelle pour voir s'il y a d'autres... Donc là, ce qui s'est passé à Rennes, d'abord, vous avez raison. Je crois qu'il faut vraiment... C'est très, très, très rare. À ma connaissance, il y a 10 ans, il y a eu un accident similaire en Grande-Bretagne.
Oui, il y a 7 ans.
Moins de 10 ans sur des anticancéreux.
Oui.
Sur des produits contre le cancer. Bon, là, ce qui s'est passé, je pense que ça nécessite une enquête. Ça nécessite de voir un certain nombre de choses. Quelle dose? Est-ce que toutes les règles? Parce que c'est quand même très, très, très
encadré
hein, vraiment. C'est très encadré, surveillé par l'Agence du médicament. Mais bon, il faudra quand même étudier. Est-ce qu'on est passé à travers certains procédures?
Alors, juste pour l'information des auditeurs, c'est peut-être important de dire qu'effectivement, la plupart des phases 1 sont sur des volontaires sains, sauf dans le domaine du cancer.
Ah oui.
Parce que les produits sont tellement toxiques qu'à ce moment-là, eh bien, la phase 1 se fait sur des patients qui, malheureusement, sont déjà atteints de différentes pathologies.
C'est justement ce que vous avez précisé.
Olivier Adotévi, puis David DeVos.
En cancérologie, les essais de phase 1 sont faits chez des patients chez qui on a déjà, qui ont eu les traitements conventionnels, validés, existants, et qui n'ont plus d'alternative thérapeutique. Donc, on n'est plus, ce n'est pas des individus, des sujets sains.
Oui.
Donc, voilà. Donc.
Cette terrible histoire de Rennes, il faut bien rappeler qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des contrôles extrêmement rigoureux.
Oui.
Et il ne faut pas commencer à remettre tout le travail de nombreux acteurs au quotidien dans ce domaine-là. Tout faire table rase et dire qu'il y a des problèmes parce qu'il survient un événement à un moment donné. Ça me fait vraiment penser au vol par Rio-Paris.
Oui.
Voilà, on n'a pas arrêté les avions le lendemain. Et pourtant, ça nous fait tous très froid dans le dos, cette histoire-là. À la fois le vol Paris-Rio, Rio-Paris, comme l'événement chez ce patient qui est décédé, enfin ce jeune, cette personne saine qui est décédée. Mais il ne faut pas remettre tout en cause, et je crains, et on craint tous, que parce que cet événement-là se soit produit, demain, on demande des choses déraisonnables. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger, mais déjà, dès à présent, il y a énormément de choses rigoureuses. Si on vient dans le détail de cette histoire qu'on ne connaît pas bien, mais qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit qu'il y avait 5 patients qui ont reçu une dose importante, et les 5 ont été malades. Et un est décédé, et les autres ont récupéré. Ça veut dire que donc à partir d'une certaine dose, malheureusement, comme on le disait juste avant Robert Sebag, le problème c'est que normalement on s'attend à avoir des effets indésirables et on arrête au moment des premiers effets indésirables. On n'en a pas eu directement, ça a été un effet très grave. Donc voilà, c'est exceptionnel d'avoir cette situation-là, d'une telle violence. Voilà. Alors ça veut dire que la molécule, forcément, ça devient un poison, la liste des poisons. Mais il faut garder, je pense, la tête froide et attendre l'ensemble des éléments et ne pas tout remettre en cause, parce que sinon, ça va faire plus de dégâts qu'une simple personne décédée, parce qu'on a besoin de médicaments, on le sait tous. Il y a beaucoup de souffrance, la qualité de vie des patients est atteinte. Et donc, je crois qu'il faut vraiment garder la tête froide dans cette histoire.
Je suis sur la même longueur d'onde que mes collègues. Enfin, d'abord, je pense nous avons tous une pensée émue par rapport à cette victime et sa famille. Après, ce matin, dans l'intervention d'un ministre, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y avait une phrase par rapport à ça. Donc, je suppose qu'elle faisait référence à cet incident, en fait, où elle disait qu'elle ne va pas sacrifier la sécurité au prix de l'innovation. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Justement, on a besoin de ces études-là. Je pense que les organismes font le travail, comme vous le disiez, c'est très rigoureux. Peut-être des fois un petit peu trop rigoureux, justement. Je pense
c'est ce que j'allais
Donc, je pense qu'il ne faut pas prendre comme alibi cet incident et resserrer encore davantage les procédures, parce que déjà, elles sont très compliquées, très lentes, très longues. Donc, il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça, justement.
Et ça limite, d'ailleurs, la mise sur le marché. Et alors, je voudrais insister sur ce plan-là, parce que, d'une certaine manière, l'excès, je dirais, de bureaucratie sur les dossiers d'AMM, ça limite l'innovation, clairement. Et donc, ça limite la possibilité de traiter des patients qui ont besoin de tel ou tel nouveau médicament. Parce qu'on voit bien qu'il...
suis sûr que ce n'est pas M. Seba qui va me contredire.
Au contraire. On voit
bien non, mais là, sur ce plan-là, moi, je suis tout à fait... Au cours du temps, on voit bien qu'il y a eu une espèce d'une augmentation considérable du coût de développement d'un médicament. Mmh. Et autant les big pharma peuvent encore se le permettre, autant les sociétés même pharmaceutiques moyennes ne peuvent plus se permettre de développer un nouveau médicament.
Tout à fait.
Et c'est une des causes aussi de la vallée de la mort dont vous parliez. Alors, a fortiori, les start-up, elles peuvent plus se le permettre non plus. Et moi, je trouve ça quand même très inquiétant parce que c'est une des causes de la diminution du nombre de nouvelles molécules qui sont mises sur le marché à l'heure actuelle. Ce n'est pas la seule, mais c'est dans tous les cas.
Oui, David,
j'ai un adage qui, pour être résumé ça, c'est que c'est vrai que les patients peuvent avoir peur des médicaments, mais ils ont bien plus peur quand on leur dit qu'il n'y a pas de médicaments.
Ah oui, tout à fait.
Principe de précaution.
Ouais. Oui. Non, quand on propose soit le placebo, soit le médicament, il y a quand même une tendance à prendre le médicament.
Évidemment.
Voilà.
Je suis tout à fait d'accord. Cet accident ne doit pas tout remettre en cause, le travail conséquent que fait l'Agence nationale du médicament, qui pour les gens qui sont sous de cette table, qui ont déjà monté des essais de phase 1 et 2, les dossiers de l'Agence nationale de sécurité du médicament sont très complexes et ils vérifient tout.
Oui.
Et tout, et parfois on s'en plaint, mais donc voilà, je pense que c'est ils font déjà très très bien leur travail, il faut pas tout remettre en cause, et puis voilà.
Alors un dernier mot pour chacun, pour savoir qu'est-ce qui serait le plus important pour faciliter cette fois effectivement l'accès de cette recherche sur le marché des médicaments. On a entendu lever les obstacles.
Mais il y a les obstacles administratifs, mais oui, je pense qu'il y a aussi Là, M. Sévec l'avait dit tout à l'heure, le travail avec les équipes académiques, mais à l'inverse, les équipes académiques aussi très tôt doivent à un moment donner des stades de développement de leur projet, aller vers les industriels parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire sur le plan du développement d'un médicament. On n'est pas formé pour ça. On est formé pour soigner les patients, etc., aux chercheurs, mais on n'est pas formé pour développer un médicament et l'accompagner jusqu'en phase clinique. Donc je pense que c'est important la collaboration entre ces deux mondes est très importante pour l'avancée technologique.
David DeVos ?
Dès qu'on veut mettre en place un projet thérapeutique, un concept thérapeutique, il faut d'emblée tous travailler ensemble. C'est-à-dire, c'est pas... Je vais vous donner deux exemples. Il y a des chercheurs qui vont chercher sur la paillasse et qui ne vont pas très tôt travailler avec des cliniciens. Ça ne marchera pas. On n'arrive pas avec un paquet tout fait au clinicien pour que lui l'essaye après. Pourquoi ? Parce qu'il faut raisonner sur l'indication, la dose, quel patient, comment on va mettre le traitement. Et ça veut dire qu'il faut travailler ensemble dès le début. C'est ça, des vrais projets translationnels. Le projet translationnel, il est très peu financé actuellement en France, quasiment pas. Il y a quelques appels d'offres, mais en fait, ce n'est pas des vrais appels translationnels. Il finance de la recherche fondamentale qui se dit qu'il va faire ensuite que ça va aider les patients peut-être dans 10 ans. Donc déjà, ça, c'est un premier problème. Il faut associer d'emblée les scientifiques et les cliniciens. Il faut associer aussi d'emblée les industriels et les académiques. On ne peut pas travailler l'un sur l'autre, on le sait tous, et on a vraiment besoin. Donc peut-être faudrait-il... Il y a déjà énormément d'initiatives qui ont été faites par le gouvernement, les SATNOR, INSERM Transfer, il y a énormément de choses qui sont faites, mais je pense qu'il manque beaucoup encore. Il manque beaucoup encore. Et je pense, par exemple, on a un autre projet, une autre innovation thérapeutique, où on est en train de chercher depuis 5 ans des partenaires industriels, et ça n'intéresse pas les big pharma parce que ce n'est pas encore assez mature, et donc on est toujours dans cette vallée de la mort.
Alors les big pharma, Robert Sebag.
Monsieur DeVos, vous l'avez dit, c'est tout ce qui est translationnel. Je veux dire, si les gens restent dans leur coin, sur leur paillasse, et puis le clinicien de l'autre côté, on apporte d'abord, on va perdre du temps. Ouais. C'est dès le début la connaissance de la maladie, le dialogue entre les cliniciens. Sinon, si vous voulez, qu'est-ce que je retiens de ces journées, moi, d'abord, quand je viens dans ces journées ? Soit que l'innovation, c'est pas que le médicament. Hein, les anglo-saxons, ils disent « drug alone is not enough ». C'est un tout, la santé. Et d'ailleurs, c'est une mutation aussi des entreprises pharmaceutiques, d'essayer d'intégrer d'autres choses. C'est pas que le médicament. Hein, si on prend le diabète, vous avez parlé de diabète tout à l'heure. Bon, le diabète, c'est bien sûr de nouveaux médicaments, mais c'est aussi la sensibilisation sur le mode de vie, c'est les problèmes nutritionnels liés au diabète, c'est beaucoup de choses, si vous voulez. Et l'industrie, elle doit aussi s'imprégner de ces modifications au niveau de la société. Mais je crois que de dire « il y a l'argent d'un côté, il y a la science de l'autre », c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que le temps des polémiques, le temps... Bon, elle doit se terminer, on n'a pas le choix. Je veux dire, l'industrie pharmaceutique seule, elle n'aura pas de molécules si elle ne travaille pas avec les académies, si elle ne travaille pas avec les start-up, si elle ne travaille pas avec un certain nombre. Elle ne peut pas. Mmh. Elle n'aura pas en son sein toutes les compétences.
Donc elle va vers.
Elle est obligée d'aller vers. Il faut aussi les autres aillent vers. Oui. Je crois qu'il faut... Il faut un petit peu dédramatiser la relation telle qu'elle a pu l'être. Là, ça, c'est l'argent. Ça, c'est les chercheurs publics qui sont formidables. Ça, c'est les chercheurs privés, c'est l'argent. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça, de désenclaver un petit peu ces demandes, les faire se rencontrer, faire parler, moi, je suis ravi de cette table ronde. Hein, et d'ailleurs, je vais dire aux chercheurs qu'il y a des trucs pas mal. Là.
Ah, vous avez fait votre marché, là.
Non, pas fait mon marché, mais c'est vrai. De les, peut-être qu'ils sont déjà sensibilisés, je ne sais pas. Je ne suis pas au niveau de la recherche. Mais c'est important, si vous voulez, ce dialogue. Et ces journées où tout le monde a été associé, où tout le monde est intégré, discute entre eux, ça me paraît extrême. Et c'est du long terme, mais ça avance bien.
Nassim Betrouni.
J'ai juste une dernière point justement par rapport aux perspectives, ce que vous disiez. En fait, je pense que l'image du chercheur a évolué pour une simple raison que le chercheur passe son temps à chercher de l'argent. Donc il fait... Non, mais sérieusement, mais
ça, parce que... C'est le premier métier du chercheur.
C'est le premier métier, il passe son temps à chercher de l'argent. Donc il écrit des projets comme l'a fait David. Et dans ces projets-là, l'aspect scientifique, il fait... Je vais exagérer, il fait 25%. Tout le reste, c'est pas de la science. C'est des aspects socio-économiques, etc. Donc le chercheur, maintenant, il est aguerri. Il connaît tout ça. Nous, en fait, notre état d'esprit dans l'équipe où je travaille, U1189 à Lille, en fait, on fait de la technologie médicale. Nous, en projet, on développe de la thérapie photodynamique, mais le but, c'est pas de mettre de la thérapie photodynamique partout, parce qu'on croit pas réellement à ça. On croit à quelque chose qui s'appelle la sélection des patients. Nous, on parle, on est dans l'ère de la médecine personnalisée, c'est-à-dire... C'est plus un cancer, une thérapie en fait, c'est un cancer, j'ai un arsenal thérapeutique, on choisit en fonction du cancer justement, de l'agressivité, du grade,
du
patient exactement, on choisit quelle thérapie. Donc nous on développe cette thérapie photodynamique et avant de développer la thérapie photodynamique pour une application donnée, en fait on pose toutes les conditions sur la table, c'est-à-dire quels sont grosso modo, quels sont les moyens à mettre en place ou pas, est-ce qu'on a les moyens pour qu'au bout de 3-4 ans, ça arrive à être appliqué sur un patient. Parce que la technique qui va être appliquée dans 10 ans, 20 ans sur un patient, nous, on ne fait pas ça parce que d'abord, on est une unité initiale, on est évalué tous les 5 ans. Si tous les 5 ans, on n'a pas de résultat, ce n'est pas bon. Voilà, donc il y a ces aspects-là. Voilà, donc, et on est dans le cadre de la technologie médicale. La technologie médicale, c'est le but, c'est d'arriver rapidement en clinique dans l'horizon de 3-4 ans. Voilà.
Donc on vous souhaite de chercher pas que de l'argent, mais de prendre du temps pour... Voilà. Faire avancer. Patrick Couvreur.
Ben moi, je pense que la mise sur le marché de nouveaux médicaments, enfin, vu du côté académique, le problème majeur, c'est celui qu'on a évoqué en début de table ronde. C'est cette fameuse vallée de la mort, à laquelle, moi, je suis quand même confronté concrètement. Là, j'ai un projet qui a été financé à hauteur de 3 millions d'euros par l'Europe, hein, ce qu'on appelle un ERC Advance Grant. On a pu, je crois qu'à l'heure actuelle, on peut dire que les chercheurs, d'une manière générale, quand ils ne sont pas trop mauvais, ils ont les moyens de trouver de l'argent pour faire, je dirais, la recherche préclinique. Mais quand vous avez fait ça, vous avez une molécule formidable qui marche extrêmement bien en pharmacologie expérimentale. Vous avez fait les preuves de concept, vous avez publié dans les meilleures revues internationales et vous avez pris des brevets. Après, vous devez passer aux patients. Bien, pour faire ça, qu'est-ce qu'il vous faut? Soyons concrets, il vous faut un lot clinique parce que vous n'injectez pas aux patients le même produit que vous injectez à la souris. Il doit être stérile, il doit être apirogène, c'est évidemment une quantité plus importante, il faut faire du scaling up. Premier problème, ça, pour développer un lot clinique, ça vous coûte pas loin d'un million d'euros. Hein. Alors après, en général, au niveau universitaire, évidemment, on fait des études toxicologiques, mais on ne le fait pas de manière réglementaire, c'est-à-dire sur deux espèces animales, un rongeur, un non-rongeur, etc. Et donc, il y a ça, et ça, c'est encore, je vais dire, un million d'euros, donc 2 millions et demi d'euros. Et puis, vous arrivez en phase 1. Et ça, personne ne le finance. Autant la recherche amont est très financée, les Big Pharma, elles prennent les produits, vous le savez, en phase 2, pas avant.
Bien sûr. Hein,
je suis bien payé pour le savoir. Elles les prennent en phase 2. Et donc, vous avez toute cette zone grise entre la fin de la phase préclinique et le début de la phase clinique qui actuellement ne sont pas financés, qui l'étaient à la limite, je dirais, il y a 10 ans, parce qu'on trouvait encore des capitaux risqueurs plus facilement il y a 10 ans, parce que le médicament faisait rêver. Maintenant, il faut bien le dire, les capitaux risqueurs, ils préfèrent investir sur des sites internet ou des choses avec un retour sur investissement beaucoup plus rapide. On n'en a pas assez pour régler ce problème de la vallée de la mort. Donc moi, c'est vraiment cette partie-là du développement qui me semble poser problème.
Ouais. Et je pense que c'est là où on a besoin également des industriels pour nous accompagner pendant les phases précoces des développements des médicaments. Et ça souligne très bien ce que M. Couvreur a dit. Moi, je me rappelle quand on a eu le brevet sur ce vaccin, en gros, pour donner un exemple, à titre d'exemple, pour les phases précliniques,
On commandait des lots pas très, pas encore GMP, qui respectaient les normes cliniques. Ça coûtait peut-être 10 000 euros. Et quand on a débarqué chez les industriels pharmaceutiques qui produisent le lot clinique, vous multipliez ce chiffre par 100. Et je suis sorti de là, je dis, ben, je ne vais jamais y arriver. C'est comment on va trouver le financement, etc. Et bon, ben, heureusement, nous, on a eu la chance que l'État a suivi et a aidé sur ce plan pour développer la phase 1. Sinon, on n'y arrivait pas. Hein. Ou sinon, la pression qu'on se pose, je pense que ça vous est arrivé aussi. Vous avez un brevet en tant que chercheur ou médecin et vous posez la question, vous dites, mais créez une boîte.
C'est ce que j'ai fait.
C'est alors, ce que vous avez fait, des start-up. Sauf que,
c'est ce qu'on est en train de faire aussi.
C'est vrai qu'on m'a posé plusieurs fois cette question et je pense que vous aussi, et c'était là. Alors on se dit, mais si je crée une boîte de biotech, soit je m'y consacre à 100%, je pense qu'il faut s'y consacrer à 100%, sinon ça ne marche pas. Et donc on arrête de voir les patients, on arrête la recherche. Et alors donc c'est très difficile, on est partagé, on ne sait pas trop quoi faire. Et voilà, donc ça aussi
c'est un métier.
Ouais, c'est un autre métier.
C'est un métier. Il faut financer cette zone grise.
Ouais.
Oui, voilà, c'est ça.
Absolument. Finançons le translationnel.
Eh bien, écoutez, exactement. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie, messieurs.
Merci
beaucoup.
Merci beaucoup
d'avoir participé.
Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.